des gens, des millions de gens qui ont lu la Bible. On a tout dit de la Bible. Mais on n'a pas dit ceci que je vais vous dire. C'est que depuis le Sinaï, il y a vraiment la révélation suprême de Yahvé, depuis le Sinaï jusqu'au dernier grand prophète d'Ézéchiel, 1000 ans plus tard, tout le problème de la Bible, tout le problème du Pentateuque, tout le problème du Lévitique, des nombres des livres des prophètes, ça sera quelles sont les trois tribus qu'on doit mettre au nord, quelles sont les trois tribus qu'on doit mettre à l'est, quelles sont les trois tribus qu'on doit mettre à l'ouest, quelles sont les trois tribus qu'on doit mettre au sud. Oui. C'est le fondement de la Bible. Oui, je ne dis rien d'autre. Ézéchiel ne dit rien d'autre, David ne dit rien d'autre. Il va réunir, Moïse réunit les tribus au pied du Sinaï, et il dit, les trois de feu iront au nord. Et puis les trois là, ils iront au sud, et ceux-là iront. C'est les ordres de marche. Bon. Alors les trois de feu, c'est le bon, bélier, la synarchie. Bélier, le souverain, lion et archer. Bon. C'est-à-dire Benjamin, Judas et le bélier lui-même. Donc, et puis Jacob, et puis bon. Ceux de terre, ce sera Joseph, ce sera d'autres. Ruben sera de l'eau, c'est l'eau profonde. Bon. Donc on sait quels sont les éléments des tribus. Mais le problème, c'est lesquels doivent être au nord, lesquels au sud, lesquels à l'ouest. Et chacun aura sa solution. Moïse a eu le sien. Josué, quand ils auront atteint le Jourdain, il réfléchira très longtemps en dire, bon ben, les trois tribus là, ils vont aller au nord, les trois feux, ça va être Jérusalem, le sud, et puis les autres seront du côté du Jourdain, puis les quatre dernières seront au bord de la mer, le sable, le zébulon, le poisson, etc. C'est tout à fait extraordinaire. On se dit, mais pourquoi, mais pourquoi, quelle est l'importance de ça? Or, c'est une importance fondamentale, parce que quand Moïse répartit les tribus aux points cardinaux, il a sa petite idée. Il voudrait savoir en réalité ce qu'est ce Dieu. Est-ce que c'est plus simple de feu qui est quand même apparu dans le buisson de feu? C'est le Dieu bélier. Est-ce qu'il est plus d'eau? Il a quand même fait surgir l'eau du rocher. Et puis il a ouvert la mer rouge. Est-ce que c'est un dieu d'air, comme le voyait Abraham, le vieil Elohim, le dieu du souffle, le dieu formateur? Est-ce que c'est un créateur qui a créé Adam puis Ève? Est-ce que c'est le formateur de la danse spirituelle? Enfin, voilà tous les problèmes. Et la réponse, eh bien la réponse, elle va venir 40 ans plus tard, quand ils arrivent au Jourdain. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un deuxième recensement. Et Moïse va s'apercevoir que certaines tribus ont cru de 10 000 à 50 000 hommes. Guerriers, parce qu'il y a 600 000 hommes qui fuient, hommes, femmes, enfants, 600 000. Mais il y en a un qui compte une tribu qui est passée de 10 à 30 000 guerriers, et l'autre de Siméon qui est passé de 20 000 hommes à 5 000 hommes, de la dégénérescence. Alors, il y a des tribus qui sont favorisées par Dieu, il y a des tribus qui sont non favorisées par Dieu. Et ceux qui ont été trop châtiés, Moïse ne leur donnera pas la bénédiction. Et même, il retirera la prêtrise à la tribu de Siméon parce qu'ils ont perdu trop d'hommes. Puisqu'ils n'ont pas les faveurs de Dieu, c'est qu'ils sont coupables. Ce qui est le fondement de la justice. Si tu es puni, c'est que tu es coupable. C'est très important. C'est très important, mais ça inverse tout. Ça inverse tout. Et géométriquement, ça va l'inverser de la même façon, parce que si vous avez le triangle, si une chose paraît sûre, c'est que ceci, AB, est deux fois plus grand que cela, petit A, petit B. Ceci est deux fois plus grand, ou une fois et demie plus grand que ceci. Ah, c'est sûr, ça. Ah non. Aristote descend des bisectrices tout le long du triangle et il montre que les bisectrices coupent la petite droite en autant de points que la grande. Donc l'un égale l'autre. C'est irréfutable. Et ça ira plus loin en notre siècle parce que ça continue de siècle en siècle. Galilée va faire le même truc non plus dans l'espace mais dans le temps. Qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il veut démontrer que le même temps s'écoule pour aller de là à là que pour aller de là à là. On dirait les lois de l'accélération. Mais en fait, c'est que les temps ici et là sont identiques, comme là les espaces. Et en effet, le pendule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va osciller d'un point à l'autre. Quand il passe ici, il passe là. Ah oui. Ce qui semblait évident, ah ben c'est faux. Et ça continue comme ça. On a l'histoire du même et de l'autre. Et c'est bon. Ben, au début, quand on a parlé d'amour, de haine, de sympathie, dans le petit, c'était clair. Pour Empédocle, ou pour même Platon encore, là, les gens qui s'aiment bien, ils se rapprochent. Les gens qui sont semblables, qui ont des intérêts communs, ils se rapprochent. Le semblable, le roi de semblable, ça s'appelle la sympathie, le semblable, le proche du semblable. Ça va comme ça, jusqu'à l'invention du zéro, de la bière, et de la polarité. Qu'est-ce que c'est que la polarité? C'est la démonstration que les mêmes s'éloignent et que ce sont les compères qui se rapprochent. Deux pôles plus, c'est un volcan. Un pôle plus et un pôle moins, ah oui, pour mes copains. C'est étonnant. Encore une loi du volcan. Encore une évidence qui est démentie, complètement démentie. C'est extraordinaire. Vous avez un autre pendule. C'est le pendule de Foucault dont on parle beaucoup aujourd'hui. Hein? C'est un pendule qui oscille sur une horloge. Un pendule sur la pendule. Alors, quand vous voyez ça, vous dites, bon, ben là, on voit bien que c'est le pendule qui bouge. Et puis la pendule, elle ne bouge pas. Alors, si c'est la pendule qui joue de l'immobilité, de l'identité, et c'est le pendule qui joue du mouvement. Eh ben non. Le pendule, il bouge pas. Si, il bouge pas puisque c'est toujours la même oscillation dans le même plan. C'est une sorte de mouvement d'inertie, sans accélérateur. Au contraire, la pendule bouge. Parce que, dit-on, la Terre tourne sur le même rotin, donc c'est dès que ça bouge que le pendule sera comme ça et puis il sera comme ça. Moi, le
c'est
ce
qu'on dit, c'est que la première démonstration.
On mettra que.
La première démonstration du pendule, elle a fait au Panthéon.
Oui. Mais, donc, c'était ce qui semblait inerte. Et oui, en mouvement, ce qui semblait en mouvement était inerte. C'est extraordinaire. Alors, vous comprenez, quand au bout de toutes ces histoires, je pourrais en ajouter d'autres, mais je crois que ça se finit. Quand on vient me dire, ah, les idiots d'ancêtres, là, dis donc, ils croyaient que le soleil tournait autour de la Terre. Parce qu'ils voyaient ça comme ça, ça tourne autour de l'univers. Ben moi, je sais que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ça va bien. Mais lequel a raison, en réalité? Est-ce qu'on le sait?
Je suis en sais.
Est-ce qu'on le sait, lequel a raison? Bon. Après ce dévergondage, on va poursuivre. Alors, si la loi est aussi incertaine, contredite, ce qui est certain un jour et complètement inverse le lendemain, qu'est-ce qui va être? Qu'est-ce qui va être? Sur quoi se fait? Bah, évidemment, on revient au jeu, on se dit, bon, ben, c'est les choses. Ce n'est pas. Les choses ne sont pas comme ça parce que ça doit être comme ça, parce que ça peut être l'inverse. Mais parce que ça peut être comme ça. Donc il faut jouer, il faut jouer aux échecs, il faut jouer aux dames, il faut jouer aux dit, il faut jouer à l'escrime, il faut jouer. C'est sans fin, donc, c'est sans fin. Vous avez des systèmes qui se fondent sur les 32, les 64, et au départ les 8 comme les kings, comme les tarots, et d'autres qui se fondent sur les 42 comme l'apocalypse, d'autres. Le jeu admirable, malheureusement négligé, mais que je connaissais bien dans mon enfance. Et que j'ai retrouvé à certains moments de ma vie, que j'appelle le jeu de la liberté, c'est la vache. C'est ce que les Bretons appellent la vache, ou du moins les abeilles, le midi, la France, la vache, les Algériens, le Toulon, et ce sont en réalité des peuples esclaves. Les Vendéens son esclave quand il prend sous la base, quand il la trouve. Les camisards, les, bon, il n'y a pas besoin de parler des peuples esclaves. Les musulmans, les Algériens, tout ça, sous la voie française, d'aucun esclave. Ce sont des peuples esclaves qui jouent à ce jeu, à travers la terre entière.
Maintenant, j'ai entendu dire avant la mer.
Sous d'autres noms aussi. C'est un jeu de 64. C'est tout à fait différent des autres. 60, c'est le nombre de Sumer, c'est l'unité de Sumer, c'est l'unité première. C'est-à-dire que 6 unités font le cercle. 60, enfin bon. Alors il y a 64. C'est une combinaison, c'est une astuce extraordinaire. C'est une astuce extraordinaire. Il y a les 4 couleurs. Bon. Mais les 4 couleurs ne s'appellent pas les couleurs. C'est l'arme, l'épée, les épées, les coupes, les deniers et les bâtons ou le chêne, le chêne, etc. Et dans chaque branche, dans chaque embranchement, vous avez des cartes maîtresses, vous avez des figures et vous avez des nombres, des cartes nombreuses. Les maîtresses comportent une maîtresse, c'est-à-dire le monsieur qui commande les épées, le porc qui commande les deniers, la vache qui commande le bâton, les chaînes, et la dame qui commande les coups. Sous cette maîtresse, vous avez les 4 as. Ils sont nombreux, c'est-à-dire qu'on les a retirés des nombres. Le 1, c'est probablement un nombre. Et puis, il y a 4 pièces secondaires, maîtresses secondaires, qui sont le 2 de chaîne, sorti des bâtons, le 2 d'écrit, sorti des épées, le grand 9, sorti des coupes, et le petit 9, bon. Ça se joue à 4. Il y en a un qui dirige le jeu. Celui qui est en face de lui, il va faire des signes. S'il a le bon, s'il a le bon, monsieur là-bas, bon. Les autres, c'est bon, les vrais signes. Et puis alors, s'il a le jeu du Christ, s'il a le Christ, s'il a des jeux de doigts, on va pas faire la partie visuelle du jeu. D'autre part, celui qui gagne, et celui qui maîtrise, c'est lui qui connaît, puisqu'il connaît le jeu de son adversaire par les signes, il y a un peu ensemble, c'est le maître, et il a le choix entre jouer le coup, ou bien jouer la totalité, à son là, il a 2 points. Vous voyez ce que c'est. Il n'y a que le porche de la cathédrale d'Amiens qui donne quelque chose d'équivalent à la cathédrale. Tu joues au sud, 60 d'ailleurs. Avec aussi au sommet les cartes, avec les figures, avec les nombres tenus par les prophètes. Bon, alors ça c'est un jeu magnifique qui apprend aux gens la liberté. Ça prend la liberté pourquoi? Bien parce que les 4 là, ça rejoint les quatre appareils, les 4 instruments du Graal. Donc, je vous parlais tout à l'heure. L'épée, les coupes, la table, l'arche. Chacun des 3 personnages, Gauvin, Perceval et Galarde, utilise ces 4 instruments, mais différemment. C'est la table d'émeraude pour l'un, c'est la table ronde pour l'autre, c'est le Graal 35 pour l'un, c'est le Graal 38 pour l'autre, c'est l'épée des stocks, l'épée de taille, etc. Si vous jouez sur 8000 ans, vous retrouvez la même chose. Le coupe, ben c'est le chaudron, c'est l'ancien chaudron. C'est le chaudron, c'est le panier, c'est ce qui contient la nourriture. L'arme, ben l'arche, ça monte moins, l'arche, l'arche, ça monte moins. La table, ben, il y a eu la table des lois au temps de Moïse, il y a la table gardée de ses mères que reprend Malombène en Coran. Donc ce sont des appareils éternels. Seulement, chaque période lui donne un sens un petit peu différent et chaque personnage lui donne un emploi différent. Alors, vous apercevez que toute la quête du Graal, par exemple, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, elle joue les 3 et les 4. Vous avez 3 qui étaient le 6 de roi, qui est au cœur et le peuple, le Jacques, enfant trouvé. Et chacun des trois possède les quatre appareils.
3 fois 4, 12.
Mais là, ce sont les trois qui sont mobiles, et ce sont les quatre instruments qui se retrouvent simultanés dans chaque quête. Si vous prenez la chimie, c'est l'inverse. Ce sont les quatre qui vont évoluer, ça va être les quatre grandes opérations que symbolisent le grain, la salamandre, le pélican et le phénix, pour les quatre éléments terre, feu et eau. Et ce qui va être simultané dans chaque opération, ça va être les trois matières, le soufre, il y a la chose sec, chaude, le mercure, la chose liquide et le sel, l'ancien livre. Ces trois matières vont se retrouver à chaque étape, à chaque opération. Quatre opérations qui multiplient 3, 12. Et ces 12, ben, ce sont les touches réglées de la table ronde, ce sont les 12 opérations de la chimie. Tout à l'heure, c'était les 12 tribus, c'était les 12 6, dont certains vont vers l'ouest, dont d'autres vont vers l'est. Dont certains jouent du triangle, dont d'autres jouent du cercle. Ça commence à se préciser. Ah, ça se précise. Ça se précise vachement parce que. Regardez ça, c'est tout à fait extraordinaire. Je vais vous montrer que les figures ne sont que des lettres. Vous avez un triangle. Généralement coupé, comme on l'a vu avec Aristote, comme ça par exemple. C'est quoi ça? Dites A. Maintenant, vous avez un verre. Le panier. C'est quoi? V.
Mais arriver, c'est le début. C'est le début. Si vous réunissez les deux, vous allez avoir un carré. Voilà. Si vous le faites le contraire, vous allez avoir un X. Si vous êtes parti de là, les passages se feront par l'X et par le carré. Je ne vous ai pas parlé dans les inversions des lois de cette chose extraordinaire.
Il y a ce qui est discontinu, ouvert, et ce qui est continu, fermé. Qu'est-ce qui permet le passage des deux? Eh bien, naïvement, simplement, on dira c'est l'ouverture. Si la porte n'est pas ouverte, je ne peux pas passer. Ah oui, ça semblait vrai pendant pas mal de siècles, mais c'est plus vrai depuis l'invention de l'électricité. C'est quand le fil est continu que ça passe. Alors, voilà. Oui, ou l'X, ou ça. Mais l'X lui-même, c'est quoi? Ben, c'est ça, ça, ça et ça. C'est quatre triangles. Et là, on va jouer d'autres choses, on va jouer du fil, du défilé, de la monture, de la mouture, etc. Et puis ça va continuer comme ça. Et en fin de compte, on va pas seulement avoir A, mais on va avoir des continuations. Parce que avant la chimie, il y avait la force. Après la chimie, ben, il y a l'électromagnétisme actuel. Ça continue d'une autre façon. On est passé du bélier au poisson, du poisson au verseau. C'est quoi ça? W. Si vous avez le contraire, vous avez ça. Ça aussi, ça continue, ça n'arrête pas. Ça irait où? Rien ne s'arrête, alors ça continue. Il y a quelque chose qui a précédé l'enfant. Ça a été le chef, ça a été la mère, ça a été le parent. Il y a quelque chose qui suivra, on sait. Hein, ses propres enfants, ses enfants. C'est quoi ça? Enfin, c'est elle. Et puis si vous montez l'un sur l'autre, ça sera une boîte contenue dans deux X ou un X contenu dans deux boîtes. Etc. Et pour finir, vous aurez cette chose extraordinaire dont je vais parler maintenant. Vous aurez cette X. X, alors, X minuscule en quelque sorte. Qu'on appelle l'analèbre. Hein? Et il y en a un qui va. C'est un serpent qui va dans un sens, puis un serpent qui va dans l'autre. Voilà. Ça, c'est la voie de l'enfant trouvé. Qui finit par. Qui finit très mal, qui finit par. parce qu'il meurt quand il découvre le graphe. Et puis l'autre, c'est la voix de l'élu, qui finit très mal aussi parce que ça s'arrête en infrarouge. Ce sont les couleurs ici, les aspects des choses. Et ça s'arrête en infrarouge, ça commence à l'ultraviolet, et ça finit à l'infrarouge, l'infrarouge c'est pi sur gamma, à peu près. C'est-à-dire que vous avez une série convergente qui aboutit à pi sur gamma. Et de l'autre côté, vous avez une série convergente qui va aboutir à E moins 1. Mais ça, c'est, je vais en parler, c'est un nœud. C'est tout de même un nœud. Il est très difficile de savoir finalement lequel est là, lequel est l'autre, où ça s'arrête, où ça commence. On voit vraiment comme un écheveau de laine, si vous voulez, comme quelque chose qui est mêlé. Par exemple, si vous prenez des quadrilatères dialectiques au hasard, vous n'arriverez pas à grand chose. Ou même sans parler, puisque je parlais de jeu. Eh bien, il y aura le jeu, mais il y aura le joueur. Évidemment, qu'est-ce qu'un jeu sans joueur? Et qu'est-ce que c'est que le jeu? Ben, c'est l'ensemble de toutes les règles possibles. Le jeu d'échecs, le jeu de dames. C'est le jeu instantané, immédiat, simultané, le jeu que j'ai en main. Et puis le jeu, c'est ce qui est, ce qui n'est pas vrai, ce qui est du théâtre, ce qui est de la simulation. Et de la même façon, le joueur, ben, c'est celui qui, c'est le menteur, c'est le séducteur, c'est le mangement, c'est le fumiste, ce joueur. Et on sait aussi, depuis Dostoïevski, que c'est le passionné, c'est le contraire. C'est celui qui feint la passion et qui l'a pas, et puis c'est le passionné qui va se faire par la production de ce jeu. On l'appelle aussi un joueur. Et puis le joueur, ben, c'est l'homme de terrain, c'est l'homme qui joue sur une scène. Alors, où est le sens exact dans ces trois sens? Et puis on va dire, on va reprendre le mot, hein. Le mot, eh bien, on le retrouve dans l'enjeu. Mais on le retrouve d'une manière aussi très curieuse, parce que il y a le jeu, bon, il y a le jeu d'échecs et le jeu de dames. Mais la partie de ce jeu, on va l'appeler comme on va l'appeler la partie. De faire une partie de pelote, une partie de bridge. Alors là, c'est clair, bon, une partie, c'est le morceau du tout. Morceau du tout. Mais ça ne veut pas dire que ça, ça veut dire bien autre chose. Ça veut dire bien autre chose. La partie, c'est tout.